Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 3 avril 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Pakistan, tentative de coup d'État US. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le président iranien félicite les dirigeants musulmans pour le mois sacré du Ramadan. Cessez-le-feu au Yémen, violé par l'Arabie saoudite. 3 personnes tuées dans des attaques d'artillerie saoudienne. Et puis, le djihad islamique promet la réponse semblable à l'assassinat de 3 Palestiniens par le régime sioniste. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien félicite les dirigeants musulmans pour le mois sacré du Ramadan. Le président Ibrahim Raisi a adressé ses félicitations aux dirigeants des pays musulmans à l'occasion du début du mois sacré du Ramadan. Dans des messages séparés aux dirigeants des pays musulmans, samedi, Raisi a espéré que de mesures efficaces seraient prises pour renforcer l'unité au sein de l'Oumma islamique, en particulier contre les mouvements de division et le terrorisme takfiri. Il a ajouté qu'un tel objectif pourrait être atteint avec les bénédictions du Ramadan qui est marqué par la miséricorde et le pardon et grâce aux efforts conjoints des dirigeants et des intellectuels islamiques. Tout en mettant l'accent sur la cohésion et la solidarité croissante entre les nations musulmanes. Ibrahim Raisi espérait également que le monde et la Palestine en particulier assisteraient à l'élimination de l'oppression et de l'injustice et à l'établissement de la paix et de la sécurité. Le bureau du chef de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a déclaré le dimanche 3 avril comme le premier jour du mois sacré musulman du Ramadan en Iran. L'Iran proteste contre le recours à la force physique par la police danoise contre une femme iranienne. L'ambassade d'Iran à Copenhague a vivement protesté contre le recours à la force violente par la police danoise contre une femme kurde qui détient la nationalité iranienne. Il y a 2 jours, des photos et une vidéo se sont répandues dans l'espace virtuel dans lequel la police danoise de l'immigration a violemment battu une demandeuse d'asile iranienne devant son mari et ses enfants et l'a transférée de force à l'aéroport de Copenhague pour partir en Turquie. Après que la police danoise a confirmé cet incident tragique et violent, l'ambassade de la République islamique d'Iran à Copenhague a envoyé une note officielle dans laquelle elle a exprimé au ministère danois des Affaires étrangères sa ferme protestation contre cet acte inhumain. Dans le même contexte, l'ambassadrice d'Iran à Copenhague, Madame Nathpour, s'est rendue le vendredi au ministère danois des Affaires étrangères et a rencontré les responsables concernés du ministère de l'Immigration et du ministère des Affaires étrangères de ce pays. Elle a exprimé la vive protestation du gouvernement iranien contre cet incident malheureux qui a provoqué la colère du peuple et des responsables de la République islamique d'Iran, appelant les autorités danoises à punir les auteurs et à veiller à ce que les incidents similaires ne se reproduisent pas, ainsi qu'à présenter des excuses pour cet acte inhumain et ce comportement barbare. L'assassinat de 3 Palestiniens par le régime sioniste recevra une réponse semblable, déclaration du djihad islamique. Les brigades Al-Quds, la branche armée du mouvement djihad islamique de la Palestine, ont annoncé en réponse à l'assassinat de 3 Palestiniens à Jenin que ce crime recevra une réponse dans son intégralité. Selon le site internet Al-Watan Palestine, les brigades Al-Quds ont souligné que le crime d'assassinat de 3 jeunes Palestiniens par les forces d'occupation samedi matin dans la ville de Jenin était une continuation de l'occupation et de l'agression du régime sioniste. La déclaration des brigades d'Al-Quds se lit comme suit. Nos guerriers ont remporté la victoire et le martyre avec leur sang, sans prêter attention à l'armée du régime d'occupation et à son arsenal militaire. Nous resterons en Palestine pour garder la flamme de la résistance contre le régime sioniste. Le communiqué disait également « Avant les soldats, nous offrons les commandants pour le martyr contre la répression du régime d'occupation et en vue de libérer la terre palestinienne et des lieux saints ». La branche armée du djihad islamique palestinien a conclu « Le sang de 3 combattants qui ont été martyrisés à Jenin a souligné le lien historique entre Jenin et la bataille d'aujourd'hui et l'épopée djihadiste de 20 ans. » Cessez-le-feu au Yémen violé par l'Arabie saoudite, 3 personnes tuées dans des attaques d'artillerie saoudienne. 3 civils yéménites ont été tués dans une attaque d'artillerie et de missiles dans le nord du Yémen, ont rapporté samedi soir des sources d'information saoudiennes. Selon le site yéménite Al-Masira, les forces saoudiennes ont ciblé des zones urbaines dans la province de Saada, au nord du Yémen, avec des attaques d'artillerie et de missiles qui ont abouti au martyre de 3 civils yéménites. Les attaques sont survenues quelques heures après que le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen a annoncé qu'un cessez-le-feu de 2 mois au Yémen commencerait samedi à 19h et que toutes les opérations offensives terrestres prendraient fin ce soir. Avec la mise en œuvre du cessez-le-feu humanitaire et militaire, nous réaffirmons notre engagement à une cessation complète des hostilités tant que l'autre partie continue de le respecter, a déclaré Yahya Sari en réponse à l'envoyé spécial de l'ONU, annonçant un cessez-le-feu au Yémen. L'Arabie saoudite a lancé une offensive de grande envergure contre le Yémen, le pays arabe le plus pauvre, le 26 mars 2015, sous la forme d'une coalition de plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis avec l'aide et le feu vert des États-Unis sous la prétention de retour du président déchu, Abdel Mansour Hadi, pour exercer ses ambitions politiques. Le premier ministre pakistanais dissout le parlement de son pays et proteste contre l'ingérence américaine. Le premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré vendredi que son gouvernement avait adressé une protestation officielle à l'ambassade des États-Unis contre ce qu'il a qualifié d'ingérence de Washington dans les affaires du pays. Nous avons maintenant effectué une démarche auprès de l'ambassade américaine, a déclaré Khan dans une interview faisant référence à une note diplomatique sur ce qu'il a décrit comme un complot étranger visant à l'évincer du pouvoir, rapporte Reuters. Khan avait déclaré jeudi qu'un pays étranger conspirait contre lui après sa visite à Moscou en février. Khan a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou le jour où les forces russes ont déclenché une guerre contre l'Ukraine. La Maison-Blanche a nié que les États-Unis aient cherché à chasser Khan du pouvoir. Vendredi, des membres du parti au pouvoir au Pakistan ont organisé une manifestation contre les États-Unis dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays. Un groupe d'activistes anti-américains a également réagi aux affirmations de Khan en organisant un rassemblement à Islamabad où ils ont brûlé des drapeaux américains. Enfin, guerre en Ukraine, Poutine et Zelensky vont probablement se rencontrer. Le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie, David Arkhamian, a déclaré que les pourparlers entre les présidents ukrainiens et russes sont possibles directement en Turquie. Le négociateur en chef ukrainien a déclaré que les négociations sur un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine ont suffisamment avancé pour permettre la tenue de consultations directes entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Pakistan, tentative de coup d'État US. Reza Seraj, expert des questions politiques, a écrit sur sa chaîne Telegram que le Pakistan est le sixième pays le plus peuplé du monde et le seul pays islamique à posséder des armes nucléaires. Ce pays, qui a un rôle particulier dans la détermination des équations régionales et internationales, a fait un choix stratégique. Selon cet expert, le Pakistan est le foyer de la rivalité géostratégique américano-chinoise dans le corridor Est-Ouest. L'initiative chinoise One Belt One Way et sa stratégie du collier des perles chinois couvrent 60 pays asiatiques, africains et européens. Ce projet placera la Chine dans une position de premier plan. Le point de départ de ce projet s'appelle l'Initiative des océans Indo-Pacifique. Ce projet est la porte d'entrée vers l'ascension de la Chine sur l'échelle de la puissance mondiale et le recul progressif des États-Unis au moindre coût possible. Les États-Unis, en revanche, ont des plans spécifiques pour contenir la Chine. Les États-Unis couvrent la région énergétique du Golfe Persique avec l'initiative des océans Indo-Pacifique qui commence par le côté arabo-israélien de la Méditerranée, puis englobe l'Inde dans l'océan Indien et passe par le détroit de Malacca. Il s'ouvre sur l'Asie de l'Est pour compléter l'alliance du bloc occidental avec le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et certains pays de l'ASEAN, afin d'encercler la Chine, indique M. Seraj. Selon ce dernier, le Pakistan, notamment sous le règne d'Imran Khan, par son choix stratégique, est devenu un acteur décisif entre la Chine et les États-Unis, d'une part, et l'Iran et l'Arabie saoudite, de l'autre. En effet, les critiques d'Imran Khan à l'égard des États-Unis et de l'Occident sur les questions régionales, le manque de coopération avec l'Occident face à la Russie, le renforcement de sa coopération avec l'Iran et son refus de confronter l'axe de la résistance au Yémen ont amené les services de renseignement américains et britanniques à faire descendre dans la rue les partisans de Nawaz Sharif pour renverser Imran Khan dans le cadre d'un coup d'État politique visant à contrecarrer les plans d'Imran Khan. Les opposants à Imran Khan auront-ils recours à son assassinat s'ils échouent dimanche à voter pour le renverser? Et quels sont ces péchés que l'Amérique n'a pas pardonnés et qui l'ont poussé à soutenir l'opposition pakistanaise? Pourquoi Khan refuse-t-il de démissionner? S'interroge le journal en ligne Raya Liam. En effet, les opposants au premier ministre pakistanais l'accusent de mauvaise gestion économique, d'inflation galopante et de l'affaiblissement de la monnaie nationale. Mais la crise économique pakistanaise ne date pas d'aujourd'hui et les accusations proférées à son encontre sont en effet dues à ses positions convergentes avec la Russie et à sa visite à Moscou tout au début de la guerre en Ukraine. Il a également refusé que les États-Unis construisent des bases militaires sur ces terres. Voilà pourquoi Washington soutient l'opposition pakistanaise à renverser le gouvernement d'Imran Khan. Les États-Unis veulent des gouvernements soumis et vassaux, et leur disciple idéal était l'ancien premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, qui, comme l'a dit Khan, a construit des usines pour ses proches. Il semble que les tentatives de l'opposition battent leur plein pour retirer la confiance à Imran Khan et l'évincer, car ce dernier refuse de démissionner et peut-être s'appuie-t-il aussi sur une partie de la rue pakistanaise qui dit que le Pakistan n'est pas dépendant et qu'il a des politiques étrangères indépendantes.
Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau volet du débat concernant l'Afrique où le sujet sera le Mali et le débat se focalisera surtout donc sur l'aspect économique donc suite à toutes les sanctions donc que le Mali donc est victime et surtout le peuple malien mais aussi l'aspect politique bien évidemment. Et car il ne faut pas oublier que le Mali actuellement est devenu l'épicentre du panafricanisme. Et donc c'est pour ça que nous allons aborder donc ces sujets. Et suite à la politique donc souverainiste que suit donc le gouvernement malien et même le peuple malien. Mais avant tout, nous allons regarder donc le reportage et je vous retrouve tout de suite après avec nos deux invités.
Lassant le pétard mouillé. Voici deux informations communiquées tour à tour par les médias mainstream que sont RFI et Jeune Afrique et qui prouvent à quel point le Mali, le Grand Mali, a déjà gagné sa bataille contre les sanctions occidentales déguisées et ce, à la fois en raison de cette extraordinaire solidarité interafricaine qui, de l'Algérie au Sénégal, en passant par les voisins les plus immédiats du Mali, mais encore par la fermeté et l'intransigeance malienne. RFI écrit « Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunis à Accra, ont décidé de maintenir les sanctions imposées au Mali. Ils demandent de nouveau une transition de 12 à 16 mois supplémentaires pour permettre une levée progressive des sanctions. »
Nous allons donc voir nos deux invités, Philippe Hugon, donc reporter de guerre, avec qui je vais commencer. Monsieur Hugon, est-ce que vous m'entendez ?
Eh bien, oui.
Eh bien, bien le bonjour à vous. Donc, vous vivez à Paris et vous êtes reporter de guerre. Et donc, j'aimerais bien vous poser la question. Donc, ce qui se passe au Mali, comment donc est-ce que c'est perçu donc depuis la France ? Cette forme de rupture, en fait, qu'il y a entre le Mali et la France à l'approche des élections.
Oui, alors moi je dirais que la France a une très longue histoire avec l'Afrique, pas seulement avec le Mali, mais un grand nombre de pays comme le Zaïre, le Cameroun, le Gabon. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on avait mis une telle mainmise sur les pays africains qu'on a beaucoup de mal dans le monde occidental à accepter le développement de ces pays. Donc on a entravé le développement d'un grand nombre de pays africains pour des raisons politiques. Alors évidemment, aujourd'hui, on assiste à des situations qui sont extrêmement complexes, sans compter qu'il y a malheureusement en Afrique beaucoup de corruption et qu'on se sert de cette corruption pour créer un certain nombre de divisions entre les partis et les régions d'Afrique de façon à essayer de déstabiliser toutes les régions de façon à pouvoir remettre une certaine mainmise sur la politique africaine. Et je pense que tant que nous pratiquerons dans le monde occidental une telle politique, nous conduirons toujours ces pays au chaos non seulement politique, mais en chaos économique, en chaos financier. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on revoie totalement notre politique vis-à-vis de l'Afrique.
Que voulez-vous dire par « il faut revoir en fait la politique avec l'Afrique »
eh bien, il faut commencer par prendre un petit peu ces gens au sérieux, ce qui n'a pas du tout été le cas de ces 50 dernières années, puisqu'on les a tellement chapeautés, on les a tellement influencés dans leur politique qu'un certain nombre de dirigeants africains n'ont jamais pu mener une politique réelle vis-à-vis de leur propre pays, puisqu'on avait systématiquement...
Une politique souverainiste.
Ah, politique souverainiste, bien sûr. Et c'est bien ça le problème du développement, pas seulement, bien sûr, au Mali, mais c'est le cas d'une manière générale dans toute l'Afrique. Les Britanniques qui ont détenu un grand nombre de pays dans l'Afrique de l'Est, notamment, hein, je parle de la Tanzanie, du Kenya, enfin de tous ces pays de l'arc de l'Est de l'Afrique, ont conduit les mêmes politiques. Et la seule différence avec nous, c'est qu'ils ont pu faire évoluer cette politique vis-à-vis de l'Afrique et qui a permis un développement un peu plus important et un peu mieux contrôlé et un peu plus respectueux envers les dirigeants africains. Ce que nous, en France, on n'a pas encore compris le véritable enjeu de cette politique africaine qu'il faut revoir dans sa totalité, de façon à permettre aux pays africains de se développer non seulement à leur rythme, mais de ne pas profiter honteusement de la situation financière et des réserves naturelles de ces pays pour continuer d'avoir la main mise sur la politique de ces pays.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Hugon. Je reviens vers vous. Là, on va retrouver donc Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles. Monsieur Dupré, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien et je vous salue.
Salutations à vous aussi, Monsieur Dupré. Écoutez, on va profiter donc du fait que vous soyez économiste pour vous demander, en fait, que faut-il pour un pays africain pour donc qu'il puisse assumer sa souveraineté monétaire, en règle générale.
Alors, tout d'abord, concernant la souveraineté monétaire, le cas du Mali est particulièrement intéressant. Puisque, bon, on parle des sanctions qui frappent ce pays, elle est le fait d'une communauté qui est le prolongement de la communauté, enfin, qui est une copie de ce qu'on appelait la communauté économique européenne en Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un pays comme le Mali, en réalité, il faut quand même le savoir, le franc CFA, qui est la monnaie d'échange de l'Union économique et monétaire d'Afrique occidentale, dont fait partie le Mali, eh bien, en réalité, lorsqu'il y a un incendie à la Banque de France, on a plus l'impression des francs CFA n'est plus effectuée. Les réserves même de ces pays sont mises en commun et sont gérées par la Banque de France. Donc, il y a réellement un... Bon, alors, l'UEMOA s'était mise en projet, et c'était intéressant, d'avoir sa propre monnaie et de remplacer le franc CFA. Franc CFA qui existait déjà avant la colonisation. À l'époque, c'était pas le même. Enfin voilà.
La même connotation.
En fait, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Et qui est devenu, en fait, aujourd'hui, le franc CFA, qui n'est plus évidemment lié aux colonies françaises d'Afrique, mais qui est une communauté africaine francophone. Et on sent très, très bien le poids réel de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest à travers ce type d'instrument. Alors, il y a quelque temps, ces États de l'UEMOA, dont faisait partie le Mali, avaient projeté de se doter d'une monnaie commune, mais souveraine. Une monnaie qu'ils auraient gérée eux-mêmes face au reste du monde, qui allait s'appeler l'écho. Eh bien, les habitudes de la France-Afrique sont terriblement ancrées dans cette région, puisque le projet de création de l'écho, qui devait intervenir ici à la fin de l'année 2020, il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, a été reporté à une date indéterminée. Et c'est évidemment contre cela que s'oppose un gouvernement comme le gouvernement du Mali. Il n'est pas le seul historiquement en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso l'a fait en son temps. Le Sénégal, à une époque, résistait un peu. Donc il y a toujours eu ce type de tentative. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Il faut quand même se rendre compte qu'un pays comme le Mali est souvent présenté ici dans les médias occidentaux comme un pays pauvre. C'est faux. Le Mali dispose aujourd'hui de réserves minières qui sont complètement stratégiques pour les industries européennes. Nous parlons de développer la voiture électrique. Nous allons avoir besoin de cuivre et de nickel. Or, on trouve des réserves de cuivre et de nickel au Mali. On parle de plus en plus de développer, pour la voiture électrique toujours, il faut du lithium. Il y a des réserves de lithium au Mali. On parle de développer davantage de nucléaire dans le nord de l'Europe. Il faut de l'uranium. Il y en a au Mali. Et tout cela, toutes ces réserves qui sont importantes, ne sont même pas encore exploitées aujourd'hui. On comprend dès lors que ce pays fasse l'objet d'une telle attention, très intéressée bien sûr, de la part des Occidentaux, et qu'il y ait une forme de résistance à ce qu'il convient quand même d'appeler une manifestation évidente de néocolonialisme. Donc les tensions ne sont pas prêtes de disparaître. Hein. C'est pas. Mais en tout cas, oui. Et évidemment, ce gouvernement est aujourd'hui ce pays qui est potentiellement très riche, puisqu'il y a un gouvernement qui veut, quelque part, que ce soit le Mali qui profite d'abord de ses richesses. Eh bien, aujourd'hui, ce pays est soumis à des sanctions, et ces sanctions, depuis le mois de janvier, sont terribles, puisqu'elles impliquent notamment qu'il n'y ait plus d'échange économique entre le Mali et le reste de la CEDEAO, à l'exception des produits de première nécessité. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui s'appelle un blocus. La situation du Mali aujourd'hui à l'égard de la CEDEAO, et donc indirectement de la France et de l'Union européenne, en fait, c'est exactement ce qui a été imposé à Cuba dans les années 60.
Mais ces sanctions, en fait, elles ont été imposées, donc, si je me souviens bien, le 9 janvier, sauf erreur de ma part. Mais jusque-là, en fait, le Mali tient le coup.
C'est-à-dire qu'en fait...
Il est sous embargo, mais la question que j'aimerais vous poser, en fait, c'est parce qu'ils ont sanctionné aussi la Banque centrale malienne. Est-ce qu'ils ont droit de faire ce genre de choses?
C'est-à-dire qu'à mon avis, non. Mais on a sanctionné la Banque centrale de l'Iran, on sanctionne actuellement la Banque centrale de Russie. Est-ce qu'on peut sanctionner, si vous voulez, la banque qui émet la monnaie d'un pays, qui est l'expression de sa souveraineté, c'est un des pouvoirs régaliens de base? Moi, je pense que c'est illégal. Mais il se trouve que le droit n'est jamais qu'à un moment donné le reflet d'un rapport de force politique et militaire. Et donc, j'aurais beau dire que c'est illégal, illégitime et injuste, de toute façon, cela s'impose par les armes. C'est ça la dimension impérialiste du néocolonialisme. À un moment donné, il y a une pression par les armes. Ça, c'est très net. Et dans le cas du Mali, on la sent très fort. Alors, pour vous répondre sur l'impact de ces sanctions, la réalité, c'est que le système bancaire malien va souffrir. Parce que, évidemment, les actifs de sa banque centrale qui se trouvaient en Europe, et oui, c'est la dimension du franc CFA qui est là. Tout cela est gelé. Maintenant, la population malienne, bon, il y a encore une forte proportion de la population malienne qui vit de l'agriculture plutôt vaille que vaille. Et donc, la coupure des échanges marchands avec le reste des pays de la CEDEAO ne va pas les toucher. Maintenant, le système bancaire malien, aujourd'hui, il est privé de liquidité. J'ai vu exactement la même politique de sanctions de l'Union européenne, avec exactement les mêmes ressorts en termes de ressources naturelles et de rapprochement avec la Russie, ce qui ne nous plaisait pas, avec le Burundi. Il ne plaisait pas à nos dirigeants. Je ne m'associe pas à cela. Eh bien, le Burundi a été victime de sanctions, mais sa population vivant de l'agriculture, ces sanctions ont eu peu d'effet. En revanche, à un moment donné, le système bancaire du Burundi y était étranglé. Et donc, le développement de toute une série d'initiatives, que soit de services publics ou d'infrastructures, était compliqué. C'est cela qui est. On cherche à étrangler financièrement ces pays pour qu'ils ne puissent pas tout simplement disposer librement de leurs ressources. Et nous sommes toujours dans cette dimension-là. Il y a un vrai drame français, et M. Hugon avait raison de le dire, c'est qu'il n'existe pas côté anglo-saxon une structure aussi fermée et aussi formel, parce qu'on voit, on sait qui était Jacques Foccart, on connaît ces gens, aujourd'hui ils ont des opinions sur rue, une structure aussi manifestement néocoloniale que la France-Afrique. Ça a même conduit certains grands groupes français, en réalité, à tellement s'appuyer sur une espèce de monopole indu en Afrique, à ne pas se moderniser. il y a encore quelques années, la part du gaz, et Dieu sait qu'on a attiré l'attention des grands investisseurs sur l'importance du gaz, la part du gaz au sein du mix énergétique de Total, aujourd'hui Total Énergie, était faible. Parce que Total s'était spécialisé dans le précaré néocolonial d'exploitation du pétrole africain. Et puis Total a dû rattraper son retard et s'est installé en Russie. Et aujourd'hui se présente comme victime de contrats léonins de la part du Kremlin, alors qu'en réalité, c'est sans doute le fait de pouvoir exploiter du gaz russe qui a sauvé Total et lui a permis d'avoir un mix énergétique qui était en fait compétitif sur les marchés aujourd'hui, enfin, en termes d'offres de services.
Ça, je pense que c'est à cause de l'échec de Total au Mozambique. Mais ça, on va développer un petit peu plus avec vous. Je reviens vers vous, Monsieur Hugon. On voit clairement un acharnement en fait envers le Mali, parce que bon, en Guinée il y a eu aussi un coup d'État, au Burkina Faso il y a aussi eu un coup d'État, mais il n'y a pas cet acharnement contre ces deux pays. Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de politique de deux poids deux mesures qui se met en place donc en Afrique de l'Ouest, mais surtout vis-à-vis du Mali?
Oui, alors moi je tiens à souligner un trait de caractère qu'ont malheureusement beaucoup de gens et qui peut paraître dérisoire dans de grands débats comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de l'orgueil national, de l'orgueil des politiques qui gèrent ce genre de dossier. Et on s'aperçoit en fait que beaucoup de décisions sont prises parce que certains dirigeants se sont sentis floués et en esprit revanchard par rapport à certains pays. Donc, en fonction des situations politiques et du développement de ces politiques, moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup de politiciens occidentaux ont ce mauvais état d'esprit de revanche et se sont sentis floués dans les décisions. Donc ça a créé de la colère, de la haine, du ressentiment, et ça amène un certain nombre de politiques à s'allier souvent à des grands groupes financiers et qui vont dans certains dossiers les saboter et vont prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon sens en créant un grand nombre d'injustices. Donc on l'a vu dans un certain nombre de pays en Afrique, on l'a vu en Amérique du Sud, on l'a vu dans à peu près toutes les régions du monde. Et le problème, c'est que cet orgueil national arrive à créer des situations qui sont tellement alambiquées, tellement difficile à gérer, que la situation devient totalement hors de contrôle. Alors, moi, je suis toujours stupéfait venant de la part de hauts fonctionnaires ou de grands dirigeants de grands groupes industriels qu'ils puissent rentrer dans un tel schéma qui, pirate absolument toutes les décisions de bon sens qui ont pu être prises simplement pour cet orgueil national. Et ça, on peut le voir dans de nombreux pays. Et je pense que le Mali, aujourd'hui, fait certainement partie de ces pays qui ont voulu avoir une certaine indépendance de décision et que malheureusement, eh bien, en France et quelquefois dans d'autres pays d'Europe, eh bien, on a beaucoup, beaucoup de mal à supporter que ces pays puissent tenir tête à un pays comme la France ou la Grande-Bretagne ou un certain nombre de pays européens. Je trouve qu'il y a vraiment un grand manque de maturité dans les décisions qui sont prises, dans les études qui sont menées. Et une fois de plus, je dirais que le monde occidental est vraiment responsable par ricochet d'un certain nombre de situations qui ne sont plus tenables aujourd'hui. Je rappelle quand même que nous sommes en 2022 et il serait temps maintenant qu'il y ait une nouvelle classe dirigeante, non seulement au niveau politique mais également au niveau financier, et qui prennent conscience de ces problèmes, parce qu'on ne gérera plus ces problèmes-là comme on les gérait dans les années 60. Ces années-là sont bel et bien révolues, heureusement d'ailleurs, pour le développement personnel de ces pays. Et je pense qu'on continue actuellement, on a encore des relents de cette France-Afrique et qui nous poussent à commettre des erreurs qui sont irréparables et dans lesquelles on méprise totalement ces dirigeants africains.
Tout à fait. Merci, Monsieur Hugon. Monsieur Dupré, vous avez parlé en fait de plusieurs pays donc dans l'Afrique francophone qui donc se sont entre guillemets, on va dire, rebellés contre le franc CFA. Mais la Mauritanie a réussi. Donc elle est sortie du franc CFA. Qu'est-ce qui manque actuellement au Mali pour donc effectuer cette procédure?
Alors, je pense que dans le cas de la société mauritanienne, bah, écoutez, à partir du milieu des années 70, on a quand même vu un pays qui était homogène, c'est clair, il y avait une homogénéité de la population, un projet de développement qui se situait finalement entre sa propre tradition mauritanienne et le socialisme arabe. Et donc, il y avait un vrai projet. Et surtout, la Mauritanie, à partir du entre le milieu des années 70 et le début des années 80, en 1979, plus précisément, a, si vous voulez, abandonné la guerre pour le Sahara occidental et s'est recentré sur son territoire, ce qui lui a permis évidemment d'échapper à la grande porte d'entrée de tous les impérialismes depuis la fin du 19e siècle, de grands impérialismes européens, qui sont les aventures militaires. Et précisément, c'est ici que le bât blesse concernant le Mali. Le Mali est aujourd'hui une zone qui est terriblement sous tension militaire et on peut le dire clairement, tout le jeu aujourd'hui, pendant très longtemps, il y avait cette présence russe qui permettait de compenser, de jouer entre deux alliés possibles pour le gouvernement malien. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine et le fait que, il y aura sans doute un recentrage des forces russes sur l'Ukraine, bien à nouveau, on sent venir, je l'entends parce que je connais des gens à Bamako, des gens qui parfois travaillent pour l'Union européenne, on sent clairement qu'on va remettre une assistance militaire sur le tapis avec évidemment l'idée de conditionner la souveraineté du Mali. Ça, c'est un véritable drame. Hein. Alors, je crois quand même qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on parle de tous ces pays, le Mali ou d'autres, aujourd'hui, qui... Par exemple, prenez la République centrafricaine, elle affirme très fort sa souveraineté, parfait, mais qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence que, je voyais des reportages où on disait « Oh, les Russes, ils sont envahissants là-bas ». Ce sont des concurrents pour les industries de l'Union européenne, et j'ai pas de souci avec ça, il faut jouer au jeu de la concurrence. Quand on veut se développer, il n'y a pas de souci. Mais on les voyait ouvrir des dispensaires dans tout un tas de villages parce qu'ils exploitent des ressources naturelles. La conclusion, elle est la suivante, c'est que la France a exploité un certain nombre de ressources en Centrafrique et n'a jamais construit ses dispensaires. Ça veut dire que quelque part, nous avons été incapables, alors que ces pays nous rapportaient des milliards, de dépenser quelques centaines de milliers de dollars pour assurer des services de santé de base. Nous devons revoir de fond en comble notre approche. Si l'Union européenne et l'Europe occidentale veulent s'émanciper du gaz russe, c'est un choix souverain. C'est pas moi qui vais en décider. Mais je vois tout de suite qu'on est en train de pointer toute une série de pays africains. Voilà. Mais est-ce qu'on sera capable, nous, à ce moment-là, de construire les dispensaires et d'offrir quelque chose et aussi d'éviter de conditionner la souveraineté. C'est préconditionné, cette idée qu'on doit pouvoir s'ingérer dans tout pour pouvoir sécuriser notre investissement. Ça, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. C'est pas une question d'opposition à la Russie. La Chine nous l'a prouvé. La Chine est aujourd'hui devenue incontournable en Afrique parce qu'elle fonctionne avec un refus des conditionnalités dans que ce soit les transactions financières ou que ce soit les investissements. Et je vais même vous surprendre. Il y a quelques années, dans un débat à l'ULB, j'avais un représentant du Parti socialiste français qui était un ancien responsable du Parti communiste.
Donc l'ULB, pour que tout le monde le sache, hein, c'est l'Université libre de Bruxelles.
C'est ça, oui, l'Université libre de Bruxelles. Et dans le cadre de ce débat jeudi, nous ne pouvons plus, nous, au sein de l'Union européenne, maintenir cette politique non-impérialiste de conditionnalité. Et ce monsieur était d'accord. Et ce que je vois, c'est que l'Union européenne, 10 ans après, n'a toujours pas compris que l'attitude néocoloniale et paternaliste, aujourd'hui, non seulement, mais elle a toujours été, elle est insultante à l'égard des Africains dans leur culture, mais elle est surtout, aujourd'hui, du point de vue de l'économiste que je suis, complètement contre-productive.
Ah oui.
Si nous voulons être remplacés en Afrique d'ici 10 ans par les Russes, les Chinois, c'est déjà en partie du cas, ça c'est clair, les Russes qui vont développer leur réseau africain, et demain les Indiens, nous voulons être remplacés comme cela, il nous suffit simplement de continuer à ne pas voir la réalité en face.
Ah oui.
D'accord. Eh bien, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous deux, Monsieur Hugon et Monsieur Dupré, pour donc ces interventions donc excellentes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous retrouve très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Algérie a rappelé le samedi 19 mars son ambassadeur à Madrid pour protester contre un brusque revirement de l'Espagne qui s'est dite favorable à un plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental. Un dossier dans lequel Alger soutient les indépendantistes du Polisario. L'Espagne, pourtant très dépendante de l'Algérie pour ses approvisionnements en gaz, dont les prix ont flambé après l'intervention russe en Ukraine, a opéré vendredi un changement de position radicale sur ce dossier sensible. Le gouvernement espagnol a apporté pour la première fois publiquement son soutien au projet d'autonomie marocain pour le Sahara occidental alors que Madrid avait toujours adopté une position neutre entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du front Polisario. Très étonné par les déclarations auprès des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance admirant le Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet et immédiat, a indiqué le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué. Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, avait indiqué vendredi à Barcelone que l'Espagne considère l'initiative d'autonomie présentée en 2007 par le Maroc comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend entre Rabat et le Polisario. Cette nouvelle position a été saluée par les autorités marocaines comme des engagements constructifs ouvrant la voie à un dégel des relations bilatérales. Une bruit diplomatique majeure opposait Rabat et Madrid depuis avril 2021 après l'accueil en Espagne pour y être soigné de la Covid-19 du chef du Polisario Brahim Ghali. Elle s'était réduite par l'arrivée massive en mai 2021 de migrants d'origine marocaine dans l'enclave espagnole de Ceuta, situé en nord du Maroc, profitant d'un relâchement de la surveillance des frontières côté marocain. dans le cadre de la normalisation des relations entre les deux pays. Une visite du Premier ministre espagnol Pedro de Sanchez au Maroc, dont la date n'a pas été communiquée, est programmée, tandis que le chef de la diplomatie se rendra, lui, à Rabat avant la fin du mois, selon le gouvernement espagnol. Selon Bernabé López, professeur d'études arabes et islamiques à l'Université autonome de Madrid, ce geste espagnol sur le Sahara a en particulier pour but d'obtenir de Rabat une gestion des flux migratoires afin qu'il n'y ait plus de contrôle et de cette absence intentionnée de contrôle de la part du Maroc, juge-t-il. Le conflit du Sahara occidental, ex-colonie espagnole considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes du Polisario soutenus par Alger. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire désertique et aux riches sous-sols, et aux eaux poissonneuses, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. Le Polisario a dénoncé samedi le changement de position de Madrid, exprimant beaucoup d'étonnement face à une proposition espagnole qui contredit absolument la légitimité internationale. Les indépendantistes sahraouis ont appelé les forces politiques à Madrid à faire pression sur le gouvernement espagnol pour qu'il corrige cette grave erreur. Les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Cour internationale de justice et la Cour européenne de justice et toutes les organisations régionales ne reconnaissent pas une quelconque souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a ajouté le Polisario dans un communiqué. L'Algérie a fourni en 2021 plus de 40% du gaz naturel importé par l'Espagne, dont l'essentiel lui parvient à travers le gazoduc de sous-marin Medgaz, d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes par an. Une autre partie du gaz algérien est arrivée jusqu'en octobre dernier en Espagne à travers un autre gazoduc, le GME, passant par le Maroc. Depuis l'automne, l'Alger en a suspendu le fonctionnement après la rupture fin août de ses relations diplomatiques avec Rabat. L'armée malienne dit avoir tué 203 combattants terroristes dans une opération au Mali. 203 éléments des groupes armés terroristes ont été tués à la suite d'une opération aéroterrestre de grande envergure des forces armées maliennes menée du 23 au 31 mars dernier au centre du pays, indique un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Selon le communiqué daté de vendredi, l'opération a également permis d'interpeller 51 terroristes, de détruire 200 motos et de récupérer d'importantes quantités d'armes et de munitions. Cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents rebelles. Kadiba à Moura, 17 km au nord-est de Kouadourou, dans la région de Mopti, fief de terroristes depuis quelques années, a expliqué dans son communiqué la direction de l'information et des relations publiques des armées. La durée de 3 ans de la transition politique au Burkina Faso pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait, a déclaré vendredi soir le président de la transition, Paul-Henri de Sanda Ogo Damiba, en réponse à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est dite préoccupée par cette durée. dans un message télévisé à la Nation, il a souligné qu'aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait dans les mois à venir dans les zones à fort défi sécuritaire. Le lieutenant colonel Damiba a rappelé que la durée de la transition tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Pour lui, plus vite nous arriverons à juguler cette situation et plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal. Le Kenya a appelé jeudi les décideurs africains à donner la priorité à l'atténuation de l'impact du changement climatique dans leur programme de développement économique. Peter Munia, secrétaire au ministère kenyan de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des coopératives, a déclaré que le changement climatique représente une menace majeure pour l'Afrique, un obstacle de taille à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est important de garder à l'esprit que toutes les conséquences du changement climatique peuvent être exacerbées par des voies politiques inappropriées, a-t-il indiqué dans un discours lu en son nom par le secrétaire administratif en chef du ministère au cours de la 24e réunion annuelle du Consortium africain de recherche économique à Nairobi. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance du Kenya, notre émission consacrée à l'actualité africaine s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you. Thank you.